aussi à toute l'équipe de louanges, encore une fois, pour ces beaux chants. C'est toujours merveilleux de pouvoir réchauffer nos cœurs par des beaux cantiques comme ça. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes comme moi ou si ça vous arrive à l'occasion de lire la parole, et peut-être ça fait plusieurs fois que vous la lisez, et vous arrivez sur certains passages ou sur un paragraphe, et qu'est-ce que vous faites? « Ah, je connais bien ça, moi, ce passage-là. Je passe ça par-dessus. » Ça vous est-tu déjà arrivé? Non ou oui? Oui, bon, merci de voir que je ne suis pas le seul à qui ça arrive à l'occasion. Mais savez-vous, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que malgré tout ça, il y a toujours dans la parole des perles sur lesquelles on peut sauter. Et c'est pour ça que même si on lit un passage qu'on connaît bien, c'est toujours bon de le relire et de demander au Seigneur qu'est-ce qu'il veut nous révéler sur ce passage-là. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Je vous invite à tourner dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11. Un passage que je suis certain que vous avez lu et relu. Mais c'est important que je garde votre attention malgré ça. Si vous vous dites, ben non, je le connais ce passage-là, je n'ai même pas besoin d'écouter ce qu'il va me dire. Et vous savez, il y a deux semaines à peu près, un soir, je devais assister à cause du travail à une conférence. Et le monsieur qui était là se présentait comme étant non pas un motivateur, il n'aimait pas ce mot-là, et encore moins comme un jovialiste, mais il se présentait comme un réaliste positif. Et là, il nous a entretenus pendant 1h20. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il connaissait la génération, parce que je pense que j'étais le plus vieux sur 300, qui était là, les X, Y ou Z, je mélange tout ça, moi, là, mais là, il savait qu'il fallait capter l'attention. Et là, il était au moins, je ne sais pas, 30 fois. « Hey, regardez-moi! Regardez-moi! » Puis là, il claquait des doigts. N'importe quel moment, il faisait sa présentation, puis il faisait ça. Fait que si ce matin, vous vous dites, « Je le connais, ce passage-là, puis vous avez envie de tomber endormi, je vais être là, puis je vais vous dire quoi? » Bon, vous avez compris la leçon. Mais ça ne devrait pas, vous allez voir. Taquine, je pense que je trouvais ça tellement frappant de voir cette manière-là d'attirer l'attention. Donc, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, on va juste lire quelques versets à partir du verset 25, s'il vous plaît. Matthieu 11, verset 25. « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses, aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » « Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Un passage, comme je l'ai dit, qui est bien connu, mais je pense qu'il est important qu'on se rappelle, d'une part, le contexte dans lequel Jésus a donné ce passage-là. Vous savez, quelque temps auparavant, quand on lit dans le chapitre 11, on voit que c'est un contexte quand même qui était difficile, parce que Jean-Baptiste était emprisonné, et Jean-Baptiste a vécu une certaine hostilité, bien entendu, à cause du témoignage qu'il rendait à Jésus. Jean-Baptiste, imaginez-le un peu, celui qui était le précurseur, qui était là pour annoncer la venue de Jésus, lui qui rendait un témoignage, lui qui a pu dire « Voici, en visant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Voilà que Jean-Baptiste voyait Jésus, le reconnaissait, témoignait de lui et finalement se ramasse en prison. Et pas dans une prison comme à Trois-Rivières, là. Pas dans une prison où on peut faire du bodybuilding. Non, dans une prison où c'était vraiment pas drôle comme situation. Et pourtant, Jean-Baptiste, qui annonçait la venue, qui a vu Jésus, se ramasse dans une situation tellement difficile pour lui. Et il se demande certainement, mais comment ça se fait que je suis là, moi? Moi, je suis là pourtant, puis j'annonce celui qui devait venir, j'en parle et tout ça, puis je me ramasse en prison. Puis en plus de ça, ben non seulement il se ramasse en prison, mais Jésus, c'est le Messie. C'est lui qui devait venir. Puis certainement que Jean-Baptiste espérait que le Messie en venant, ben là, lui mettrait de l'ordre dans tout ça. Et voilà que Jean-Baptiste se retrouve en prison, Mais qu'est-ce qui se passe avec le grand libérateur? Donc oui, Jean-Baptiste était dans un contexte vraiment où il a vécu une hostilité. Mais en même temps que ces doutes-là, cette perplexité-là arrive, Jean-Baptiste envoie ses disciples vers Jésus pour lui poser une question parce qu'il est dépassé un peu par tout ce qui lui arrive. Il lui dit au verset 11, au chapitre 11, verset 3, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? » Imaginez le doute dans l'esprit de Jean-Baptiste par rapport à tout ce qui arrive. Vous savez, en 2016, on a des frères et on a des sœurs qui vivent des temps très difficiles. On a déjà été encouragés à prier pour l'Église persécutée. Et vous voyez ici, c'est une carte du monde et il existe ce qu'on appelle un index de persécution dépendamment des pays. Et à ces endroits-là, on a des frères, on a des sœurs, des chrétiens et des chrétiennes qui, à cause de leur foi, sont persécutés. Peut-être que eux autres aussi se ramassent en prison. Et peut-être un peu que comme Jean-Baptiste, eux aussi se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive exactement? Et il y a d'autres personnes qui, sans vivre des persécutions aujourd'hui, ben vivent quand même des grandes épreuves. S'il y a quelqu'un dans la salle ici qui n'a pas passé par des épreuves, il y a juste une chose. C'est soit que vous êtes encore un tout petit bébé, puis vous n'êtes pas ici, vous êtes à la pouponnière, ou encore vous êtes mort. On passe toutes et tous par des épreuves. Qui d'entre vous n'a pas dans sa famille quelqu'un qui a souffert d'un cancer, ou une personne qui a souffert d'un cancer, un deuil d'un enfant, un autre deuil, et la maladie, tout ce qui peut arriver aussi aux chrétiens, chrétiennes, encore aujourd'hui en 2016, à cause des épreuves aussi, peut-être que pour nous aussi, ou du moins pour moi, je sais que ça m'est arrivé, dans ces temps-là d'épreuves, il peut y avoir un certain doute qui s'installe, un peu comme Jean-Baptiste. Et je me pose la question, mais voyons, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je t'aime, puis regarde dans la situation dans laquelle je me retrouve. Et à l'époque de Jean-Baptiste, il y avait une autre chose aussi. C'est qu'il y avait, en plus de l'hostilité, il y avait aussi une indifférence. Parce que quand on regarde toujours dans le chapitre 11, on voit à un moment donné que Jésus fait des gros reproches à des villes. Il fait des reproches aux villes qui s'appellent Chorazin, Bethsaïda et Capernaum en leur disant, « Hey, je suis allé chez vous. » Paraphrase, « Je suis allé chez vous, j'ai fait des miracles incroyables pour prouver qui j'étais et vous ne vous êtes pas repentis. » C'est terrible, c'est incroyable. Ces gens-là, pourtant, ont entendu le message. Puis si les mêmes miracles avaient été faits ailleurs, peut-être qu'ils se seraient même repentis. Donc, des reproches par rapport à l'attitude des gens. Une indifférence que ces gens-là démontraient à cette époque-là, malgré tout ce que le Seigneur a pu faire. Et encore là, aujourd'hui, même si des fois on est au travers des épreuves, de l'hostilité, regardez les efforts d'évangélisation qui se font et les résultats que ça peut donner. C'est quoi la réponse des gens par rapport à l'évangélisation lorsqu'on l'a fait? Que ce soit dans les déjeuners de l'espoir ou n'importe où, des gens parfois sont incrédules. D'autres vont être indifférents totalement. Ça montre à quel point, même si la parole de Dieu elle est disponible facilement, partout, à quel point les gens peuvent être indifférents à la parole. Pas plus tard qu'hier, dans le journal de Montréal, avec les événements qui sont survenus cette semaine, Joseph Facal signe un article ici, « Raison et foi, l'impossible dialogue ». Et là, il ne va pas avec le dos de la cuillère, mais tout en étant respectueux. C'est bizarre un peu, mais en tout cas. Je vous lis quelques extraits, en parlant de ceux qui croient, qui ont la foi. « Quant aux grands scientifiques qui disaient croire en Dieu, la plupart ont vécu à des époques où afficher leur non-croyance pouvait être dangereux. » C'est pour ça qu'il y a des scientifiques intelligents qui ont dit qu'ils croyaient, mais c'est parce que s'ils ne le faisaient pas, c'était dangereux pour eux autres. « Ah, certes, il y a des tas de gens intelligents qui croient. Je ne veux aucunement leur manquer de respect. Mais j'en suis venu à la conclusion que leur foi vient combler un vide, une angoisse, une crainte quelconque. Qui n'en a pas? Joseph Facal, sans doute. Et quand il termine, quand on regarde leur histoire en parlant de ceux qui ont la foi, les grandes religions sont au fond des sectes qui ont réussi. Je le dis en tout respect, Ce besoin de croire est la version pour adultes de la doudou rassurante pour l'enfant. Je constate à regret que la science et la raison n'en viendront pas à bout. Merci Seigneur, que la science et la raison n'en viendront pas à bout, parce que c'est ça. Ça ne s'explique pas par la science et la raison. Ça se vit par la foi. Indifférence, pour d'autres, c'est, ça pourrait être pire encore. Mais voilà un peu, voyez-vous encore, le constat qu'on peut faire, c'est qu'en 2016, qu'on compare avec ce qui s'est passé dans le temps de Jean-Baptiste ou aujourd'hui, on vit encore un peu les mêmes situations, dépendamment où on est dans le monde. C'est encore une époque qui est difficile. Mais au travers de ce contexte-là, si difficile, à l'époque et même aujourd'hui, bien, Jésus lance une invitation, et toute une invitation. L'invitation de Jésus, elle est importante. Et vous savez, une invitation, là, des fois, si vous êtes comme moi, vous en avez reçu dans votre vie. Et l'importance de l'invitation, ça va dépendre de la personne qui invite. Vous êtes d'accord? Si vous recevez une invitation d'un ami, c'est une chose. Si votre patron vous invite, oh, c'est un autre. Si le premier ministre vous invite, bien là, hey! Puis si Donald, comment il s'appelle là? Non, Cadotte, Trump. Si Donald Cadotte vous invite à aller en Floride, hey, mes amis, attends un peu là, hey! Voyez-vous donc, dépendamment des personnes qui invitent et de l'importance de la personne, je t'aime bien Donald, hein, tu comprends là, mais c'est pas de ma faute, c'est ton prénom. Voyez-vous, dépendamment de l'importance de la personne, l'invitation va être encore plus importante. Et ici, dans le passage qu'on a aujourd'hui, c'est une personne qui est très importante. Puis malheureusement, encore aujourd'hui, les gens ont une très faible compréhension de l'importance de qui est Jésus. À l'époque de Jean-Baptiste, pourtant, Jésus a fait des miracles incroyables, il avait pu nourrir des foules. Il avait autorité sur les maladies, autorité sur les démons. Ses propres disciples à Jésus l'ont vu agir même sur les éléments. Et quand ils l'ont vu agir sur les éléments, calmer une tempête, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? On ne comprenait pas vraiment encore qui était Jésus. Et en préparant ce message-là cette semaine, vous savez, en allant, comment on dit, googler, en allant sur Google, j'ai tombé sur un article que j'ai trouvé intéressant qui date de 2010, mais qui est un article du Devoir par rapport à, justement, la foi des Québécois par rapport à Jésus. Et je vais juste vous en lire un petit extrait pour voir qu'encore aujourd'hui, comment ce n'est pas différent. Il dit ceci. Des 950 répondants, en effet, 76% affirment bien ou assez bien connaître Jésus. On le connaît assez bien. Et 52% sont désireux d'en apprendre davantage sur lui. J'espère que c'est votre cas, 100% ici ce matin. Plus de la moitié se disent impressionnés par Jésus et près du tiers le qualifient de modèle de vie. Ah, Jésus, c'est un modèle de vie pour eux. Seulement 23% y voient un personnage inventé. Même les athées, les agnostiques ou les gens sans religion, pour ces personnes-là, sa figure serait incontournable. On ne peut pas passer à côté. Par contre, on remarque, non sans étonnement, que seulement 43% des catholiques, dans ce cas-ci, perçoivent avant tout Jésus comme le Fils de Dieu, un article pourtant fondamental de la foi chrétienne. Bon nombre de Québécois composeraient donc eux-mêmes leur credo. On magasine, on va faire notre propre credo, même si on est croyant, même si on dit croire en Dieu et tout ça, on va prendre ce qui fait notre affaire. Mais dans le passage qu'on a aujourd'hui, la façon que Jésus se présente, c'est beaucoup plus qu'un modèle de vie. Et ce matin, on l'a dit lors de la célébration, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Jésus, c'est le Messie, celui qui était annoncé, qui devait venir, qui est venu, qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité, puis qui va revenir. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Et quels que soient les sondages qui soient faits, on doit apprécier Jésus en fonction vraiment de ce qu'il est, de qui il est. Et il ne faut pas se surprendre qu'en 2016, ce n'est pas différent de l'époque de Jean-Baptiste. Les gens demeurent encore là, incrédules ou indifférents. Mais Jésus lance une invitation. Et une invitation que je suis sûr que lorsque vous avez rencontré des gens qui commençaient à s'intéresser à la parole de Dieu, qui commençaient à s'intéresser à Jésus, vous leur avez dit ça. « Hey, j'ai un verset pour toi. » Et c'est un verset qui, effectivement, à prime abord, c'est vrai, dans le fond, c'est un verset, lorsque Jésus le donne, puis on regarde le contexte, tout ça, c'est vraiment un verset qui s'adresse aux personnes qui ne le connaissent pas. Mais moi, j'aimerais aller un peu plus loin ce matin. Parce que je suis sûr qu'ici, la majorité des gens, vous le connaissez, vous savez qui il est. Mais je pense que ce matin, il est important que vous et moi, on soit capables quand même de le reconnaître aussi et de se dire, est-ce que cette invitation-là, est-ce que cet appel-là ne s'adresse pas aussi à moi? Parce que si je prends cet appel-là, cette invitation-là, puis je l'applique à moi, vous l'appliquez à vous personnellement, bien, ça va vous permettre de vous approcher davantage de lui, de le connaître mieux, puis de mieux l'aimer. Donc, c'est une invitation vraiment qui est pour tous. Mais une invitation, ça exige toujours une réponse. Toujours. C'est oui ou c'est non. C'est toujours comme ça. Et si on dit « attends », bien « attends », c'est non. Vous comprenez le jeu, là. C'est pas compliqué. C'est oui ou c'est non. Et l'invitation, elle est vraiment pour tous, mais ça doit avoir une réponse personnelle. Et le verset 28 que j'ai lu tout à l'heure, au début, dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » La version Darby, qui est une version un peu plus littérale, va dire « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. » Et Parole vivante, qui est une transcription un peu plus avec un langage moderne, va dire ceci « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés. » Vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Bon, lui, le fardeau est un peu trop, peut-être, il était écrasé. Mais voyez-vous, à quel point ces paroles-là du Seigneur, ce n'est pas juste pour qu'on entende ça une fois et qu'on se convertisse. C'est des paroles pour qu'on puisse revenir vraiment à lui. Et vous qui êtes fatigués, le mot fatigué dans son sens vraiment littéral, c'est dans un sens de travailler au point de s'épuiser complètement. Une journée de travail, bien là maintenant, c'est plus comme dans le temps, vous allez me dire, là, mais une journée de travail que quand tu sors de là, tu es vidé, tu es épuisé. Ça, c'est vraiment à l'intérieur. Mais ici, il rajoute aussi, vous tous qui êtes chargés. Et là, être chargé, c'est quelque chose qu'on vous a mis sur le dos, c'est un poids, c'est un sac. Mettez ce que vous voulez, mais c'est quelque chose que ça, là, on vous l'a mis sur le dos. Et ça, c'est de l'extérieur, puis c'est pas agréable. Et à l'époque de Jean-Baptiste, il faut comprendre aussi qu'au travers de la prédication de Jésus, on avait tous ceux qui s'opposaient à Jésus, tous ces chefs religieux qui étaient là, puis qui disaient au peuple comment se comporter, qui leur mettaient des règles, qui leur mettaient des directives, des affaires incroyables qu'ils leur mettaient sur le dos, mais qu'eux-mêmes ne pouvaient même pas porter. Mais ils mettaient sur les gens, par exemple. Spirituellement, c'est ce qu'ils faisaient. Et ça amenait un fardeau qui était très, très lourd. La vie n'est pas facile. Vous en conviendrez avec moi. Si vous regardez autour de vous, moi, j'ai toujours retenu l'expression quand j'étais plus jeune, métro, boulot et... Ah, vous l'avez connu, vous autres aussi? Métro, boulot et dodo. Là, ça roule. Quand ça spinne, j'ai vu une petite diapositive à un moment donné, là, ça dring, dring, ça dring. Le gars est dans le métro... Puis il attendait « ding » quand il venait le temps de débarquer. Il arrivait au travail, « dring », c'est le téléphone qui sonnait. Puis quand il était couché le matin, « dring », c'est quoi? Le réveil matin. Toujours, toujours. Et c'était un feu roulant. On est comme dans un tourbillon. Et on est encore plus dans un tourbillon parce que le monde dans lequel on est n'a pas de vision par rapport à l'éternité. Donc pour eux, c'est quoi? C'est « mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Donc, il faut que je m'organise, en plus, dans ma journée, dans ma soirée ou dans ma nuit, pour avoir du fun. Je ne peux pas passer à côté, j'ai juste une vie à vivre. Donc, on fait quoi? On se brûle, on se fatigue, on s'en met sur le dos, et ainsi de suite. Moi, je pense qu'à quelque part, dans ma propre vie, même comme chrétien, moi, je suis influencé par ce qui se passe dans le monde. Je peux dire des belles paroles en avant. Je peux dire que non, voyons, je ne suis pas tant que ça. Hey, moi, là, moi, je suis un chrétien, je suis spirituel. Je n'embarque pas dans ce train-là du monde. Mais si je veux être honnête, combien de fois ce monde-là m'influence par sa vision qu'il a à court terme. Et quand tu as juste une vision à court terme, bien, ça fait quoi? Ça fait que tu veux vivre, puis ça presse. Tu n'as pas de compréhension par rapport à ce qui t'arrive dans le présent et ce qui va t'arriver par rapport au futur. Donc oui, dans ma vie chrétienne aussi, peut-être que ma vie chrétienne, elle est laborieuse. Peut-être que ma vie chrétienne, elle est pénible. Peut-être que même je suis très préoccupé avec tout ce qui m'arrive. Et peut-être même que je suis éloigné du Seigneur. Ça m'est arrivé. Ça vous est peut-être arrivé à vous aussi, sinon tant mieux, merci Seigneur. Mais peut-être que c'est votre cas aussi où vous êtes à quelque part quelqu'un qui avait passé des temps ou qui passait des temps où vous fait dire « je suis fatigué, puis je suis chargé d'un fardeau ». Donc cette invitation-là, vraiment, elle est pour nous. Mais comment maintenant accepter l'invitation? Parce que ce n'est pas tout de dire « oui, j'ai une invitation, mais je dois aussi me conformer à ce qu'elle dit, cette invitation-là ». Bien, il y a trois verbes d'action qui sont très importants. Le premier verbe d'action, c'est « venez ». Puis le sens profond de « venez », le sens fondamental, vous savez ce que c'est? C'est « venez continuellement de nouveau ». C'est un impératif, excusez-moi, puis c'est vrai que la nouvelle méthode d'enseignement, c'est peut-être même plus les bons mots, mais dans mon temps, il me semble que c'est ça, c'est un verbe, puis c'est un impératif en plus. Mais c'est continuellement de nouveau que le Seigneur nous appelle à aller. Et le sens fondamental fait ça. Donc, ce n'est pas juste une fois pour accepter le Seigneur puis notre salut. C'est aussi par la suite, à répétition, à toutes ces fois-là qu'on peut se sentir fatigué et chargé. Et la promesse du Seigneur, elle est là. Parce que le Seigneur va dire, « Je ne mettrai pas dehors celui qui quoi? Qui vient à moi. » Wow! Si vous êtes capable de dire et de reconnaître que vous êtes fatigué, chargé, puis vous allez au Seigneur, lui vous donne une promesse, « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et ça, c'est une promesse. Et on vient tous à quelque part lorsqu'on est chargé aussi avec nos tracas, nos soucis. Il y en a des exemples ici. La fatigue, la solitude, la détresse, la maladie, l'angoisse, la crainte, et ainsi de suite. On n'est pas au ciel. On est encore sur la terre et vous comme moi, on a tous une petite poche de temps en temps qui se remplit, puis des fois qu'elle vient bien pesante. Mais la promesse du Seigneur est là encore. Lorsqu'on accepte d'aller à lui, là, à ce moment-là, il va pouvoir vraiment nous accueillir. C'est sa promesse. Et j'aime ça parce qu'on dit « venez à moi ». On le dit dans l'évangélisation, « Hey, c'est pas une religion qu'on veut te parler. » Non, non, c'est une personne digne de confiance. Ce qu'il faut, c'est que tu aies une relation. Avez-vous déjà dit ça? Ben oui. Venez à moi, venez à Jésus. Donc, non pas une religion, mais une personne. C'est vrai. Mais si ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que vous êtes chrétien, est-ce qu'il peut vous arriver qu'à l'occasion, vous oubliez d'aller à Jésus et qu'à la place, vous vous dites, « Je suis capable, moi m'en sortir, ah, je la connais la parole. » Et là, vous vous trouvez toutes sortes de raisons ou encore vous allez vous virer vers d'autres moyens pour dire, « Ben gars, c'est correct, je vais aller voir par là à place, je vais me trouver une façon de m'en sortir. » Mais ici, ce que le Seigneur nous dit, c'est d'aller à lui. Et pour ça, il faut avoir l'humilité. Je suis en train de lire un livre sur le travail pastoral, un appel à... Dangereux, merci Adama. Un appel dangereux. Où là, dans ce livre-là, on voit qu'à quel point, à un moment donné, que tu sois responsable, pasteur et ainsi de suite, tu peux en venir à manquer l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être au pied de Jésus. Puis quand ça va mal, d'être au pied de Jésus. Puis quand tu as quelque chose à faire, mets-toi au pied de Jésus toujours. Mais on peut penser que toutes ces personnes-là, non, ils sont capables, voyons, ils ont une formation, ils ont aussi ça. Non, ils ont besoin d'être, lorsqu'ils sont fatigués, accablés, d'être au pied de Jésus, d'aller déposer aussi ce sac-là. Et là, ça prend l'humilité aussi nécessaire. Mais ça ne s'arrête pas à « venez à moi ». Il va ajouter aussi « prenez mon joug ». Vous savez, le sens commun qu'on entend pour un joug, vous avez certainement déjà vu ça aussi, c'est le service. Puis l'image qu'on voit souvent, moi, la dernière fois que j'en ai vu un comme ça, c'est à Drummondville, au village d'Antan. Vous avez déjà vu ça, un joug? Bon, on ne voit plus ça maintenant, là, en tout cas, certainement pas comme ça, où là, vraiment, là, il y a une idée de service parce qu'on se servait de ça pour atteler des vaches ou des bœufs, là, c'est pas important, des animaux. Pourquoi? Pour qu'ils puissent travailler ensemble. Ça, c'est vraiment le sens, point de départ là, du travail que ça implique. Porter mon joug, il y a une idée de travail en arrière de ça, une idée de service, une idée de collaboration. Mais il y a aussi un sens figuré. Non seulement c'est un sens de service, mais c'est aussi le sens de soumission. Si vous lisez un peu dans l'histoire, vous allez entendre parler des rois qui ont réussi à délivrer des peuples de la servitude. De la servitude ou du joug de telle personne, de tel gouvernement, et ainsi de suite. C'est bizarre, mais ici, le Seigneur nous invite à prendre son joug. Et soumission, ben, c'est tout un mot, ça. C'est se soumettre à une autorité. Puis, ta parole vivante, ils vont le transcrire par « accepter de vous laisser diriger par moi ». Voyez-vous, il y a quelqu'un qui bosse, il y a quelqu'un qui « lead » en arrière de ça. Mais de nos jours, quand on parle d'accepter l'autorité d'un autre, ce n'est pas populaire. Vous en conviendrez avec moi. Encore là, on peut se faire bien, bien influencer, mais dans le monde, ce n'est pas populaire. Et ça commence jeune. L'enfant qui, lui, n'est pas d'accord avec ce qui se passe, sa mère qui ne sait plus quoi faire, qui est obligée d'appeler maman à l'aide, ou 911, je ne sais pas quoi, puis le grand-père qui est attaché, parce que là, il n'y a pas de boss là-dedans, il n'y a pas d'autorité là-dedans. C'est l'enfant qui mène. Mais heureusement, l'enfant vieillit. Et il va arriver à l'école. Et là, « Monsieur, je conteste votre punition de 100 lignes à recopier. Veuillez prendre contact avec mon avocat. » Parlez aux professeurs. Parlez aux professeurs, à ceux qui enseignent. Puis qui ont commencé à enseigner il y a peut-être 30 ans. Comment il y a eu des changements? C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Le respect de l'autorité. La soumission à l'autorité n'est pas là. Mais heureusement, l'élève va grandir et va devenir un adulte. Et là, on va avoir les manifestations. Hey, non à l'austérité, non. Aussitôt qu'une autorité en place veut mettre quelque part quelque chose en place, un gouvernement ou quoi que ce soit, vite, il faut sortir. On sort avec les pancartes, puis il n'en est pas question. Le refus de l'autorité. Le refus de se soumettre. Bien, vous savez que pour l'enfant de Dieu, on peut aussi, à quelque part, avoir une réserve à se soumettre à l'autorité de Jésus. Parce qu'encore, je le répète, prenez mon joug. C'est une invitation du Seigneur au service, mais à l'acceptation aussi de son autorité à lui. Cette autorité qu'il a, qu'il doit avoir dans nos vies. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais porter un joug, ça ne doit pas être drôle. Ça ne doit pas être drôle. On a vu tantôt à quoi ça peut ressembler, puis servir, ça ne doit pas toujours être drôle. Mais le verset 30 qu'on a lu tout à l'heure nous donne une caractéristique de ce joug-là. Il dit, « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus vous dit un matin, « Venez avec votre sac, déposez-le, mais vous ne repartirez pas vide. Vous allez repartir avec un joug, mais ce joug-là, il va être doux. Il ne sera pas irritant. » Lorsqu'on fabriquait ces jougs-là, il fallait que ça prenait des charpentiers qui étaient capables de, pour que ça fitte comme il faut sur le dos de l'animal. Quelqu'un a dit un jour, lorsque Jésus était charpentier, s'il avait à ce moment-là fait des jougs, sans doute qu'il y aurait une publicité à l'entrée qui aurait été faite, qui aurait dit quelque chose comme « Mes jougs s'adaptent bien. » Parce que son joug, il est fait pour toi, pour moi. Il s'adapte en fonction. Donc oui, Jésus en plus, non seulement il va dire que son joug est doux et son fardeau léger, mais lui-même, il est quoi? Il dit qu'il est humble et doux. Imaginez, pourquoi on refuse de se mettre sous son autorité? Pourquoi on refuse de le laisser vraiment diriger notre vie si souvent et de se soumettre à cela? Donc, on vient à lui, on accepte, on prend son joug, mais par la suite, il y a aussi la suite, c'est-à-dire « recevez mes instructions ». La version Darby va dire « apprenez de moi et paroles vivantes, mettez-vous à mon école ». Le Seigneur ne veut pas vous laisser comme vous êtes. Il veut vous transformer, il veut me transformer. Il veut que vous alliez à lui, que vous vous débarrassiez de tout ce qui vous empêche d'avancer, qu'il vous donne un fardeau qui est léger, puis il veut que vous appreniez de lui. Parce qu'à l'école du Seigneur, on apprend des choses qui sont merveilleuses. On les apprend parfois à la dure. Le Seigneur n'a pas dit que « venez à moi, puis vous n'aurez plus de problème ». Il n'a pas dit ça du tout. Du tout. Mais si on prend son joug avec lui, moi je me fais souvent l'image du joug comme on a vu tantôt. Deux places. Une pour moi, puis l'autre pour le Seigneur. Il a le coup pas mal plus fort que moi. Il va savoir comment avancer, puis il est capable de tout diriger au travers de ça. Mais ici, il nous invite vraiment à être à son écoute. On a le privilège d'avoir un professeur privé. Pensez à ça comme il faut, là. Un prof privé qui va aller au rythme nécessaire pour vous former, pour me former. Mais pour ça, il faut que j'accepte d'apprendre de lui aussi. Et pourquoi on va à l'école? Bien, on va à l'école pour apprendre des choses. Ça va être utile dans la vie, puis ça va nous aider à grandir. Donc, c'est exactement la même chose avec le Seigneur. Il veut qu'on apprenne de lui pour être capable de cheminer dans la vie comme ça. Mais comment vous allez faire pour apprendre de Jésus? Recevez mes instructions. Comment vous allez faire? Bien, c'est pas compliqué. Point de départ, ouvrez la parole. La lecture de la parole de Dieu, elle est là. Un enfant qui va à l'école, il y a des livres pour lire, puis le soir, il y a des leçons, puis des leçons à apprendre, puis des devoirs à faire. C'est bien ça? Mais c'est pas différent avec le Seigneur. Lui aussi, il y a des choses à nous apprendre, et c'est dans sa parole qu'on va le voir. Il y a 2 ans de ça, en 2014, on est allé dans le bout de Sainte-Rose de Laval, pas un symposium, mais des endroits qui avaient des artisans dans la rue, tout ça. Et en passant sur le bord d'une église, il y avait une affiche. Puis ça m'a impressionné, je l'ai pris en note. L'affiche disait ceci. « Tu vas voir ton Facebook pour découvrir si tu as des messages. Mais la Bible a des messages pour toi et tu ne veux pas l'ouvrir. » Oh! Combien de fois vous ouvrez votre Facebook, les plus jeunes, les plus vieux aussi? Hein? Qu'est-ce que ça nous dit? « Hey, il y a un message qui est rentré. Wow! » On aime ça, on veut voir qu'est-ce qui se passe, t'sais? Mais la petite pensée qui est là, elle n'est pas bête. Tu ouvres ton Facebook parce que tu vois si tu as des messages, mais tu ne prends pas la peine d'ouvrir la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu a à te dire. Donc, pour apprendre de lui, il faut être capable d'ouvrir sa parole, d'obéir à sa parole dans l'esprit du joug et de le servir fidèlement aussi. Alors, ben, le résultat, ça va être quoi? C'est certain que le Seigneur va pouvoir se servir de ça, puis comme le dit Galates, le fruit de l'Esprit va pouvoir se manifester parce que vous allez grandir. Vous allez grandir en lui. Je vais grandir et là, à ce moment-là, le fruit de l'Esprit va pouvoir être de plus en plus manifesté. Je vais ressembler de plus en plus au Seigneur. Et le résultat de ça, ça va être quoi? Si on vit, ça va être le repos de l'âme. C'est ce qu'il nous dit au verset 29. Si nous venons à lui, si nous prenons son joug et si nous acceptons d'être enseignés, vous trouverez du repos pour vos âmes. John MacArthur, dans un de ses livres, dit ceci. La soumission à Jésus-Christ apporte la plus grande libération qu'une personne puisse vivre. En fait, la seule vraie libération dont elle puisse faire l'expérience, car c'est uniquement en Christ qu'elle est libre de devenir la personne que Dieu la destine à être. Wow! Pensez à ça. C'est uniquement en Christ que vous pouvez vraiment goûter à la vraie liberté. En acceptant son autorité, en vous soumettant à lui, en apprenant vraiment de lui. Donc, en conclusion, à quelque part, le Seigneur est en train de nous montrer une chose. C'est qu'au travers de toutes les difficultés qu'on peut vivre, vous et moi, en 2016, si notre communion avec lui, elle est approfondie, ça va vous donner une possibilité d'approcher les diverses situations que vous allez vivre d'une manière différente. L'épreuve va continuer, elle sera toujours là, mais vous allez être capable de l'apprendre d'une manière différente. Et ça va même aller plus loin, ça va apporter la louange. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père. » Pourtant, il savait tout ce qui se passait. Il savait comment il était pour être rejeté. Il l'était à ce moment-là, puis il serait. Et malgré ça, il a pu dire, « Je te loue, Père. » Ça change totalement notre façon d'approcher les situations que l'on peut vivre. Est-ce que je vais trébucher à nouveau? Est-ce qu'à nouveau, je vais me ramasser avec un sac sur le dos que je vais tranquillement remplir? La réponse, c'est oui, je le sais. Et là, ma nature humaine, malheureusement. Mais le Seigneur est toujours disponible pour m'accepter puis prendre à la place vraiment ce fardeau-là. Et la louange, alors, pour ressortir. Maintenant, la grosse question, c'est comment répondrez-vous à l'appel? Comment vous allez répondre à cet appel-là que Dieu vous fait d'aller à lui? Et je l'ai dit au début, souvent c'est un passage qu'on utilise pour les personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Il y en a peut-être ici dans la salle ce matin. Vous êtes peut-être une personne qui spirituellement avait cherché, spirituellement avait été d'une religion à l'autre. Je connais des personnes, moi, c'est pas possible, c'est comme une épicerie où là, ils prennent un élément de ci, un élément de ça, un élément de ça, pour arriver après ça puis dire, malgré tout ça, là, c'est vide. C'est vide. Parce que ce qui remplit le cœur, ce n'est pas la bonne chose. Donc, si vous êtes quelqu'un ce matin qui cherchait, qui avait cherché peut-être dans toutes sortes de philosophies aussi, tout ce que ça va vous amener en bout de ligne, c'est de la déception. Mais si, même si M. Facal le dit, vous êtes quelqu'un qui avait vécu des angoisses, qui avait des questions et tout ça, oui, la parole de Dieu est là pour vous répondre. Et Jésus est là pour répondre à cela. Maintenant, il y a une chose qui est importante. Puis ça va être vrai toute votre vie. Et plus particulièrement encore ce matin. Lorsque le Seigneur dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. » Dans l'article, on dit qu'il y en a quelques-uns des intelligents qui ont cru, mais... Et Jésus ici vous dit, attention là, si vous pensez spirituellement qu'avec votre sagesse et votre intelligence d'être capable de tout comprendre, vous faites fausse route. C'est impossible. Dieu ne dit pas, Jésus ne dit pas qu'un intelligent ne peut pas venir à lui et comprendre. Non, non, ce n'est pas ça qu'il dit. Mais si vous vous appuyez sur votre sagesse ou votre intelligence, c'est voué à l'échec. Ce que vous devez faire, c'est reconnaître que vous êtes un peu comme un enfant. Parce que Jésus, comme il l'a dit, l'a révélé aux enfants. À deux fois dans le passage qu'on a lu, le mot « révélé » sort. Et ce matin, dans la première partie, c'est exactement ce qu'on a sorti aussi. Dieu se révèle. Ce que vous avez besoin, c'est d'une révélation. C'est pour ça que lorsque des gens vont lire la parole, vont arriver à toutes sortes de conclusions, en essayant d'utiliser leur propre intelligence ou sagesse, des conclusions qui sont erronées. Parce que ce que vous avez besoin, c'est une révélation. Et que Jésus, comme il l'a dit, l'a révélé aux enfants. Un enfant est capable de comprendre le message de l'Évangile. Et ce qu'il vous demande, c'est d'être comme un enfant. Un enfant qui va accepter de se laisser instruire. Un enfant qui va accepter par la foi ce qu'on lui dit. C'est ça que Jésus vous offre ce matin si vous ne le connaissez pas. Mais il faut que vous réalisiez une chose. C'est que lorsque Jésus prêchait la bonne nouvelle, puis que les gens devaient se repentir, ça impliquait de changer de direction totalement. Parce que ce que le Seigneur disait comme message, c'est que, quelque part, vous êtes séparés de Dieu à cause de ce que la Bible appelle le péché. Toutes ces désobéissances, toutes ces actions en pensée ou en action que vous avez faites qui vous ont séparés de lui, Jésus dit, voilà, moi je te donne le moyen d'être réconcilié avec le Père, mais le seul moyen, c'est Jésus. Et ça, il faut que vous soyez comme un enfant puis l'accepter. Qu'il y a seulement Jésus, parce que lui, sur la croix, il a payé votre dette à votre place. Et lui, sur la croix, il est mort, mais on l'a dit encore ce matin, il est ressuscité par la suite. Preuve que Dieu a agréé son sacrifice. Donc, cet appel-là qu'il fait ce matin, il s'adresse aussi à vous qui ne le connaissez pas. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ce sac-là aussi de péchés que vous traînez dans votre vie, venez les mettre aux pieds du Seigneur. Et lui va vous prendre aussi comme un enfant, puis va vous amener à son école. Et pour ceux et celles ici qui le connaissaient déjà, n'oubliez pas de demeurer comme un enfant. Parce que lorsqu'on se pense trop comme un homme ou comme une femme capable, c'est comme ça aussi que l'orgueil prend sa place. Mais c'est comme ça que C'est très difficile d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Donc, qu'on fasse attention de ne pas se penser sage ou intelligent, parce qu'on a dit souvent qu'une personne intelligente, elle n'aime pas avoir des leçons, elle aime en donner. Hein? Elle aime en donner des leçons. Mais l'enfant désire apprendre. Mais qu'on soit vraiment tous et chacun, hommes, femmes ou même enfants, comme ce que le Seigneur nous offre, et que vous puissiez vraiment répondre positivement à son appel. On va prier. Seigneur Jésus, lorsque tu étais ici-bas sur la terre et que tu as lancé cette invitation, à combien de reprises tu as invité les gens à aller vers toi? Et malheureusement, Seigneur, on sait qu'il y en a peu qui ont répondu à cela. Mais on est heureux de savoir qu'encore aujourd'hui, en 2016, Seigneur, cet appel-là, il est lancé. Et tu veux que les hommes, les femmes aillent à toi. Et Seigneur, on veut te rendre grâce de ce que, justement, ta grâce, elle est encore accessible, elle est disponible. Et on veut te remercier vraiment pour cela et te prier pour que ce qui a été semé dans les cœurs des gens qui ne te connaissent pas, bien, puisse grandir et que ça puisse les amener au pied de la croix. Et pour ceux qui te connaissent, Seigneur, que nous puissions renouveler, continuer à nouveau, Seigneur, à aller à tes pieds pour te déposer vraiment nos fardeaux. Oui, il nous arrive d'être fatigués et chargés, Seigneur, et on veut vraiment goûter à nouveau ce repos que tu nous donnes, cette paix que tu nous donnes aussi au travers même des situations, et on veut te bénir pour cela. Et Seigneur, en terminant, on ne veut pas oublier nos frères et sœurs qui, dans le monde, souffrent à cause de leur foi, une foi qui les a changés au point d'accepter d'être persécutés par amour pour toi. Donc, accompagne-les, Seigneur, sois celui qui les encourage au travers de ces épreuves et rappelle-leur ces belles promesses que tu leur as données aussi de ce que le bonheur sera auprès de toi pour l'éternité. Donc, sépare-nous pour le reste de cet avant-midi, Seigneur, avec ta bénédiction. Merci aussi pour ce bon repas qu'on va prendre tous ensemble, Seigneur, et que tu puisses être honoré en toutes choses, dans le beau nom de Jésus. Amen.